radio de la paix. Il est 12h. Le journal de midi. César Yao.
Bonjour à tous. Tout de suite les titres de ce vendredi midi. Appel conjoint du PDCI et du PPACI pour une prolongation du délai du contentieux en Côte d'Ivoire. Face à la presse hier, jeudi, les deux parties ont livré les résultats préliminaires du comité technique paritaire mis en place. À cet effet, ils disent avoir décelé de nombreuses anomalies sur la liste électorale provisoire. La 7e édition du VivaTech, événement européen dédié aux entreprises innovantes et à la technologie, se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris en France. L'État de Côte d'Ivoire y accompagne officiellement plusieurs start-up ivoiriennes. Dans l'actualité internationale, le calme est de retour ce vendredi au Sénégal au lendemain d'une journée marquée par des violences puis la mort de 9 personnes selon les autorités. Et cela après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Et puis enfin d'édition, Constant Maillet recevra dans le cadre de l'invité de la rédaction Zohri Lassan, président du GEPSI. L'entretien portera sur les difficultés de la presse écrite et de l'arrêt de travail de 3 jours annoncé pour marquer son refus avec les décisions dites unilatérales de la maison de distribution Edipresse. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous. Appel conjoint du PDCI et du PPACI pour une prolongation du délai du contentieux en Côte d'Ivoire. Hier, jeudi 1er juin, la maison du parti du PDCI RDA à Cocody a abrité une conférence de presse conjointe des deux formations politiques. Face à la presse, ils ont livré les résultats préliminaires du comité technique paritaire mis en place. À cet effet, disent avoir décelé de nombreuses anomalies sur la liste électorale provisoire. Les détails avec Justin Koné-Katina, il est le porte-parole du PPACI.
C'est la liste électorale provisoire en violation de l'article 3 du code électoral. On constate la présence de 4813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. En ce qui concerne les personnes à filiation inconnue ou incomplète, celles-ci sont au nombre de 54 601 sur la liste électorale de 2023 sur la proportion de la population électorale que nous avons traitée. À titre d'exemple, à Bloloquin commune, dans le seul lieu de vote EPP Bledi Dieya, on dénombre 232 personnes de pères et de mères inconnus. Au titre de la croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale dans certains lieux de vote, on constate dans la région du Folon, dans le département de Kaniasso, plus précisément dans la commune de Goulia, la population électorale est passée de 3220 inscrits en 2020 à 8242 inscrits en 2023, soit une croissance de 156% en moins de 2 ans. Dans la région du Kabadougou, la population électorale a augmenté de 19%. Pendant ce temps, dans la région de Bélier, la population électorale n'a augmenté seulement que de 4%. Et dans le district d'Abidjan, elle a augmenté seulement de 3%. On est en droit de s'interroger sur l'origine de cette croissance exponentielle.
Voilà, Justin Koné, Katina, le porte-parole du PPAC. Tout autre chose dans ce journal. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable était hier jeudi face aux députés membres de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. L'émissaire du gouvernement a exposé sur le projet de loi portant code de l'environnement. D'importantes innovations ont été enregistrées dans ce nouveau code. Eh bien, là-dessus, écoutons le ministre Jean-Luc Assia après adoption à l'unanimité du dit projet de loi.
Ce code de l'environnement a été élaboré et adopté depuis 1996 et il était question donc de faire la révision de ce code pour tenir compte des nouveaux enjeux. Et entre autres, ces enjeux, c'est le changement climatique, la conservation de la biodiversité, tout ce qui est protection donc des montagnes et des mangroves. Ces nouvelles données nous ont amenés à prendre de nouvelles dispositions pour élaborer un nouveau code de l'environnement pour tenir compte de tous ces enjeux du moment. Alors, après avoir pris en compte donc tous ces enjeux, il était important pour nous d'insérer à partir de cela certains principes. Et vous savez très bien que l'ancien code de l'environnement ne prenait pas en compte un certain nombre de principes, notamment le plus important, c'est le principe de la responsabilité élargie du producteur. Pour comprendre bien ce principe, il faut savoir que désormais, le projet de code de l'environnement adopté, dans sa mise en œuvre, exigera le traitement des déchets issus donc des différents produits par les producteurs, les fabricants et les importateurs de ces produits. Tout ça pour assurer l'environnement sain pour que les Ivoiriens puissent bénéficier de leur entière santé.
Voilà l'instant Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement Durable. À Bouna, les autorités administratives et coutumières, les leaders communautaires d'influence, les ONG et organisations de base de la société civile ont été instruits hier jeudi par le CICR sur la nécessité de tenir informé le comité local de la Croix-Rouge de toute violation des droits humains dans l'actuel contexte sécuritaire qui enregistre un flux massif de déplacés du Burkina Faso vers la région du Bonkane. De Bouna, la correspondance de Jérôme Kouassi.
Pour une sensibilisation de masse, le CICR a procédé dans sa démarche à une caravane à travers la région. Rasmina Gueye, la chargée des communications.
Une caravane de sensibilisation des populations pour expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons de manière globale et puis de manière spécifique dans la région.
Aussi, le CICR a mené des actions humanitaires en faveur des réfugiés de Touba, a rappelé Edith Nguedia, la chef d'équipe.
Dans la zone, les forages, les jerricanes, la chloration et l'entretien des puits, la distribution des vivres, on a parlé de 71 tonnes et de non-vivres.
Le CICR et la Croix-Rouge locale s'attendent à des difficultés qui se pointent déjà à l'horizon, auxquelles il va falloir apporter des réponses. Kambo Félicien Signé, président du comité local Croix-Rouge de Bouna.
À savoir des situations de disparition de déplacés, la situation des enfants seuls, non accompagnés, des conflits, éleveurs, agriculteurs. Il peut également s'agir des interpellations parmi les déplacés et la Croix-Rouge se veut également travailler dans ce sens.
Réaction de participants.
Palais Tangba, présidente de l'Union des femmes lobbies du Bunkani, et nous venons d'apprendre qu'aujourd'hui, si vous avez des problèmes humanitaires, on doit directement s'adresser à la Croix-Rouge.
Dosso Meba, représentant du communauté urbaine résident à Bouna. Si une situation de violation des droits de l'homme se présentait, désormais, j'approcherai les responsables du comité de la Croix-Rouge locale pour les informer et pour qu'ils puissent nous aider.
Dans le mouvement de la Croix-Rouge, le CICR, le comité international de la Croix-Rouge, créé en 1863 à aujourd'hui 160 ans. Jérôme Kouassi Krou, Bouna, Radio de la Paix.
La 7e édition du VivaTech, le plus grand événement européen dédié aux entreprises innovantes et à la technologie, c'est pour bientôt bien, puisque cette 7e édition se tiendra du 14 au 17 juin 2023 à Paris, en France. L'État de Côte d'Ivoire accompagne officiellement plusieurs start-up ivoiriennes qui ont pignon sur rue dans leur domaine. Ici et ailleurs, on en parle avec Mata Touré.
Ce sont au total une douzaine de start-up ivoiriennes qui ont fait leur preuve ici et ailleurs dans les domaines de la télémédecine ou encore des cartes de santé numérique sous forme de bracelets numériques, des drones dans le domaine de l'agriculture ou encore des applications de téléphonie mobile en langue bien de chez nous et qui comptent bien conquérir leur part de marché cette fois avec l'appui de l'État ivoirien. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et de l'Économie numérique.
Au niveau mondial, les fonds qui sont levés pour le financement des start-up sont de plus de 270 000 milliards. Les fonds qui sont dédiés donc aux start-up africaines représentent seulement 1% de ce montant. Notre pays, grâce à cet embryon de start-up qui existe, arrive également à avoir une petite part. C'est un peu plus de 20 milliards seulement que nous avons pu lever.
Du côté du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Insertion Professionnelle, on voit là des perspectives pour d'autres jeunes à Mamadou Touré.
Nous visons la formation de 2310 jeunes dans le domaine donc du numérique. En plus de la mise en place d'incubateurs dans le domaine donc du numérique en faveur donc de notre jeunesse. Nous, au-delà donc du SEM Salon, le développement de ces startups, en plus donc de l'apport donc sur le plan d'innovation, permettra aussi donc d'avoir une valeur ajoutée en termes de création d'emplois, surtout pour d'autres jeunes.
La 7e édition de VivaTech, le rendez-vous mondial des startups, se tiendra du 14 au 17 juin à Paris, au Salon Expo, porte de Versailles.
Examen à grand tirage 2023, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé mercredi dernier le démarrage à partir du 5 juin prochain des examens scolaires de la session 2023. À cette occasion, elle a insisté sur la lutte contre la fraude lors des différentes épreuves et c'est un message qu'amplifie l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire l'OPC dont le président Claude Akakadio lance ici un appel à la responsabilité des élèves et des enseignants.
Vous savez que la tricherie ne mord pas l'individu même qui triche, ni ses parents, ni la société. Quand vous fraudez, vous êtes un tricheur et la société n'a pas besoin de tricheurs. Donc la fraude, c'est une mauvaise chose qu'un enfant ne doit pas faire. Il faut donc proscrire ça de ses actions. Et nous, en tant que parents d'élèves, nous sommes soucieux de cela. Et depuis près de 3 ans, chaque année, à la veille des examens, nous initions des tournées dans les écoles et nous rencontrons les élèves à qui nous parlons, à qui nous donnons vraiment d'énormes conseils pour qu'ils comprennent qu'il ne s'agit pas de tricher, mais qu'il faut travailler, il faut privilégier le travail. Les enseignants également contribuent à la fraude et c'est très grave. Et l'année dernière, justement, il y a eu 331 enseignants qui ont été pris en flagrant délit de faute, de tricherie. Et donc le ministre a sorti un arrêté pour les sanctionner. Donc ces enseignants-là vont écoper de l'ajournement, ils vont perdre leur autorisation d'enseigner et ils vont rester peut-être 5 ans sans pouvoir être convoqués à participer aux examens en Côte d'Ivoire. Alors, il y a des numéros verts que le ministère a imprimés. Donc, quand ils trichent, il faut les signaler pour qu'ils soient sanctionnés.
Voilà, Claude Akakadio, président de l'Organisation des parents d'élèves et d'étudiants de Côte d'Ivoire, l'OPC. Les notions de stratégie et de mobilité et de modalité de mobilisation optimale des recettes ainsi que du contrôle citoyen des actions publiques, ces sujets étaient au cœur d'un séminaire de renforcement des capacités des acteurs locaux élargis à l'ensemble du personnel de l'administration du Conseil régional du Tonkpi. Le point avec Stéphane Adams, notre correspondant sur place.
Il s'est agi du personnel administratif du Conseil régional du Tonkpi et agents recrutés localement qui ont planché sur ces deux modules que sont les notions de stratégie et de modalité de mobilisation optimale des recettes et de l'autre du contrôle citoyen des actions publiques. Réaction d'un participant au sorti de ce séminaire.
La formation est bienvenue parce que en nous retrouvant, chacun est venu avec sa compétence, son expertise, mais au cours des séances de travail, notre commission a planché sur 3 sujets dont la résolution sera lue lors de la session du conseil. Nous donnons appui après avoir fait des analyses à ce que le conseil fait.
À titre d'exemple de la gestion de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire par le conseil régional du Tonkpi avec le représentant du président du conseil à ce séminaire, Zotaon Nukwao.
Ce séminaire nous a permis de prendre des engagements vis-à-vis des villages où on a des marchés pour voir comment est-ce que nous pouvons signer des conventions avec les populations pour recouvrer des moyens pour notre développement. C'est ce qu'on a fait au niveau des zones. Les parents ont compris comment le conseil travaille. Donc aujourd'hui, le contrôle se fait par tout le monde. Ils savent dans les villages où il y a des projets à réaliser. Et dans chaque zone, les conseils régionaux suivent les travaux avec nos populations. Donc le contrôle est fait sur le terrain. La seule chose que certains n'avaient pas fait, c'est de communiquer autour des projets et expliquer aux gens comment nous travaillons.
Ils étaient 50 de participants à ce séminaire. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Dans l'actualité internationale, le calme est de retour aujourd'hui, vendredi au Sénégal, au lendemain d'une journée marquée par des violences, puis la mort de 9 personnes selon les autorités. Et cela après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, des violences qui ont entraîné aussi des destructions sur des biens publics et privés, la restriction à l'accès aux réseaux sociaux, à Facebook, WhatsApp et Twitter. Journaliste sénégalais et administrateur du site Mediapost.com, un journal en ligne. Jacques Ngorsa retrace dans cette correspondance particulière l'atmosphère qui prévaut après le verdict du tribunal criminel de Dakar.
Actuellement, la situation est redevenue normale. Hein. Présentement, les choses sont calmées. On constate que les choses reprennent petit à petit. Certains commerçants ont ouvert, les gens au travail, mais c'est pas tout le monde parce qu'il y a cette méfiance. Je ne vous le cache pas, peut-être les choses peuvent redémarrer. Les gens restent très prudents. Il y a beaucoup d'écoles qui n'ont pas fait cours, contrairement à hier où des manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays. Des manifestations qui ont abouti à 9 morts. Hein. Et ça, c'est un chiffre qui a été même confirmé par le ministère de l'Intérieur. Tout dépendra de l'évolution. Ousmane Sonko, je pense qu'il est encore chez lui. Je ne sais pas si on va l'amener. En tout cas, le ministre de la Justice a dit qu'il peut être en tout cas emprisonné à tout moment. Là aussi, on ne peut pas présager de ce qui va se passer. Mais d'après ce qu'on a vu, on peut dire que les choses ne vont pas s'améliorer si réellement le principal opposant est mis en prison. Il risque de ne pas être éligible pour l'élection présidentielle de 2024. Et c'est surtout ça l'enjeu. Il a déjà été condamné à 2 mois ferme. Et là, ses militants, en tout cas, n'acceptent pas. Pour l'instant, rien n'est encore sûr ici. On attend de voir. Les autorités ont donné des gages que la situation va reprendre à la normale. Maintenant, comme disent les Anglais, wait and see. Mais en tout cas, pour ce qu'on a vu hier, les choses restent encore très floues.
À l'instant, Jacques Ngorsa, il est journaliste sénégalais et administrateur du site Mediapost.com, un journal en ligne à Dakar. Sans transition, à présent, l'invité de la rédaction, Constant Maïli, reçoit Zohré Lassane. Il est le président du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. L'entretien porte sur les difficultés de la presse écrite et de l'arrêt de travail de 3 jours annoncé par le GEPSI pour marquer son refus avec les décisions dite unilatérale de la maison de distribution Edipress.
Zohré Lassane, vous êtes président du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. Bonjour.
Bonjour.
Comment se porte la presse ivoirienne?
C'est un secret révolutionnel. Hein. La presse ivoirienne se porte très mal pour diverses raisons. Je pense que si je devais égrener tout ça, on n'en finirait pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que la presse se porte très, très mal.
Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que la presse ivoirienne est agonisante?
Oui, si on se porte mal, ça veut dire qu'on agonise effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné. Voilà, parce que bon, on peut être agonisant, mais il peut y avoir des pistes de solutions qui vont nous redonner la santé.
Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour sortir de cette agonie?
C'est un ensemble de solutions qu'il faut adresser. Déjà, il faut remonter un peu vers 2002-2003 là-bas, quand le pays était divisé. Il y a eu un déplacement massif des populations vers le sud, et puis le marché de la partie nord était complètement désorganisé. Voilà, à partir de cet instant-là, ça n'a pas pu être remis en place comme par le passé. Donc du coup, on est dans un cercle vicieux où on n'a pas reconstitué le marché de la moitié de la Côte d'Ivoire. Et puis, de ce côté-ci aussi, avec les grossistes qui étaient dans la presse, qui sont sortis du système, on ne les a pas remplacés. Et du coup, on a eu un marché complètement désorganisé. Voilà, donc ce qui faisait que chacun se débrouillait pour s'informer. Aujourd'hui, la presse papier est agonisante parce qu'on ne s'est pas remis en cause assez rapidement pour se réinventer. Donc du coup, c'est un ensemble de choses. Il faut prendre point par point, identifier les différents problèmes et puis voir comment on peut les résoudre au fur et à mesure.
Pourquoi vous annoncez un arrêt de travail de 3 jours à compter le 6 juin prochain?
En fait, si nous avons décidé cela, c'est parce que, bon, nous avons un certain nombre de problèmes avec Edipress. Nous ne percevons pas à temps le fruit des ventes de nos journaux. Et puis, au niveau aussi de la distribution, Edipress a pris une décision de façon unilatérale qui ne nous arrange pas. Voilà. Edipress a décidé que, bon, comme il y a des journaux qui n'arrivent pas à écouler 20% même de leur tirage, désormais, ils vont se contenter de distribuer que les 20% et les 80% vont rester là où nous attendons que Edipress nous dise qu'ils vont étoffer leur circuit de distribution pour que nous puissions être exposés davantage aux clients et pour que le client puisse avoir accès à nos journaux. Donc, cette décision-là, unilatérale, ne nous a pas arrangé. Voici la raison pour laquelle, en Assemblée générale extraordinaire, les éditeurs de presse ont décidé que, bon, si ça ne changeait pas, il fallait qu'on observe un arrêt de travail.
Mais pendant cet arrêt de travail, les journaux ne paraissent pas du tout?
Les journaux ne paraissent pas du tout. Tous les journaux sur le temps du territoire.
Mais est-ce que c'est la solution?
Oui, au moins, ça va attirer l'attention sur notre problème. Et puis, bon, on va s'asseoir autour d'une table pour discuter. Le but du jeu, ce n'est pas de faire en sorte de créer des problèmes, mais c'est d'attirer aussi l'attention et des autorités et des presses sur la situation que nous vivons.
Qu'est-ce qui se passe réellement dans votre collaboration avec votre maison de distribution et Edipress, qui est une vieille maison?
C'est une collaboration historique. Hein. Logiquement, le problème qui est posé là ne devait pas être posé. Bon, nous, on reproche entre autres à Edipress de ne pas s'être adapté au au grand changement qu'on observe aujourd'hui dans le mode de consommation. On estime qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui sont adaptés, qui ont dématérialisé pratiquement tout ce qu'ils faisaient. Et tout se fait maintenant dans le numérique, se fait par pas mal de moyens, alors que Edipresse est resté dans son modèle depuis les années 60. Donc aujourd'hui, c'est à eux de nous apporter les solutions. C'est vrai que nous, on peut aider à réfléchir, mais avant tout, c'est Edipresse qui doit chercher les solutions à la distribution. Et quand ils nous font la proposition, nous, on peut voir si ça nous convient, et puis on y va. Voilà, nous, on veut améliorer la distribution pour que les journaux que nous produisons puissent être écoulés. C'est ça notre préoccupation. Parce que le fait que nous ne sommes pas distribués correctement, le fait qu'un certain nombre de problèmes font que nous ne pouvons pas avoir de la publicité, ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes livrés pratiquement à nous-mêmes. Et tout part de la distribution, puisque c'est de la vente de nos journaux que nous vivons. Donc du coup, on a beau retenir le problème dans tous les sens, on retombe sur le problème de la distribution.
Est-ce que, monsieur le président du GEPSI, il est avéré que Edipresse a des difficultés pour couvrir l'ensemble du territoire national?
Oui, Edipresse même reconnaît qu'elle a des difficultés. Donc, je pense que ça, ce n'est pas un secret. Edipresse aussi est en difficulté. C'est la raison pour laquelle nous voulons savoir est-ce que Edipresse est encore la structure qui peut nous aider à distribuer nos journaux. Nous voulons bien croire en Edipresse. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les problèmes que nous voyons, et puis avec le niveau de dette même que Edipresse a, c'est assez difficile. D'une manière ou d'une autre, il faut que l'État regarde d'un peu plus près ce problème-là, puisque l'État est aussi actionnaire. S'il faut réinjecter de l'argent, il ne faut vraiment pas hésiter. Parce que dans la construction ivoirienne, l'État doit favoriser l'accès à l'information aux Ivoiriens. Et si Edipresse n'existe pas, je pense qu'on aura du mal à remplir ce rôle-là. Donc je pense que tout est lié. Il faudrait que l'État vraiment regarde. L'État est actionnaire à Edipresse et l'État ne doit pas laisser Edipresse mourir comme ça.
Zoré Lassane, président du GEPSI, le groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, Zoré Lassane répondait aux questions de Constant Maillet dans le cadre de l'invité de la rédaction. Voilà qui referme les pages de ce journal. Le rappel des principaux titres à la une de l'actualité. Appel conjoint du PDC et du PPAC pour une prolongation du délai du contentieux en Côte d'Ivoire face à la presse hier. Jeudi, les deux parties ont livré les résultats préliminaires du comité technique paritaire mis en place à cet effet. Ils disent avoir décelé de nombreuses anomalies sur la liste électorale provisoire. La 7e édition de VivaTech, événement européen dédié aux entreprises innovantes et à la technologie, se tiendra du 14 au 17 juin prochain à Paris en France. L'État de Côte d'Ivoire d'y accompagne officiellement plusieurs start-up ivoiriennes. Enfin, dans l'actualité internationale, le calme est de retour aujourd'hui vendredi au Sénégal, au lendemain d'une journée marquée par des violences puis la mort de 9 personnes selon les autorités, et cela après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024. Fin de cette édition de l'actualité sur Radio de la Paix. Prochain rendez-vous, 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Didier Blé.
Bonjour à tous. En contentieux de la liste électorale provisoire, le PDCI, RDA et le PPAC.